la danse irrésistible. Un fermier qui était d'une grande avarice prit un jour un domestique, car il ne pouvait suffire aux travaux de sa maison. Il choisit un garçon honnête et laborieux, qu'on appelait Peters, et qui avait un très bon caractère. Peters ne cherchait à tromper personne, et croyait que tout le monde faisait de même. Quand il voulut faire prix pour ses gages, son maître lui dit « De quoi t'inquiètes-tu? Ne te donnerai-je pas du pain? N'auras-tu pas mes vieux habits? Quand tu me quitteras, je te promets de te satisfaire. » Peters trouva cela raisonnable et travailla si bien pendant 3 années qu'on n'eut pas un seul reproche à lui adresser. Au bout de ce temps, il alla trouver le fermier et lui dit « Mon maître, j'ai envie de voyager un peu. Je reviendrai chez vous quand j'aurai vu le pays. Donnez-moi le salaire de mon travail. Vous savez que vous m'avez promis de me rendre content. » « Aussi le seras-tu, dit le maître. J'ai dans un tiroir 3 vieux écus à peine rognés que je te destine. Ils sont d'un tel âge qu'en su de leur valeur comme argent, tu pourrais les vendre comme des médailles. C'est toi qui les auras et non pas un autre. » Peters, qui avait le cœur simple, reçut les 3 écus avec reconnaissance. Et comme il n'avait jamais vu tant d'argent, il se crut riche. Il fit ses adieux au fermier et partit gaiement pour voyager comme un fils de famille. Le temps était beau, l'air frais, les routes unies. Peters marchait à l'aventure, le nez au vent, respirant à plein poumon les senteurs agrestes. Il disait bonjour aux passants, souriait aux jeunes filles, et s'arrêtait contre les haies pour causer avec les travailleurs. Sa mine ouverte et réjouie séduisait les campagnards. On l'appelait pour partager les repas des familles. En revanche, il donnait un coup de main pour faucher un pré ou pour charger une charrette de foin. Il voyagea ainsi pendant 3 jours, sans avoir besoin de fouiller dans sa poche. « En vérité, dit-il, pour peu que cela dure, je ne saurais que faire de mon argent. » Comme il parlait ainsi, il rencontra un petit vieillard, ratatiné par l'âge, qui s'était assis au bord du chemin. « Qui vous rend si gai, mon ami ? » lui demanda le bonhomme. « Pourquoi serais-je triste ? » répondit Peters. « Je me porte bien, je n'ai nul souci, et ma bourse est bien garnie. » « Oh oh ! » dit le vieillard, « et que renferme-t-elle ? » « Le montant de 3 années de gages, et je n'y ai pas encore touché. »« Et combien cela fait-il ? » ?»« 3 écus, s'il vous plaît, et des plus pesants que l'on voit. » »« Vous me feriez plaisir de me les donner, » dit le vieillard, « car je suis très pauvre. » Peters les lui mit dans la main. « Je vois enfin, dit-il, qu'ils peuvent me servir à quelque chose. Depuis 3 jours que je les porte, je commençais à en être embarrassé. » « Vous avez un excellent cœur, dit le petit vieux, et je veux à mon tour vous donner quelque chose. J'ai dans ce sac 2 curiosités qui pourront vous être utiles si vous en usez honnêtement. Voici d'abord un arc qui n'est pas des plus beaux, mais les flèches qu'il lance atteignent toujours le but que l'on vise. Voilà un violon qui n'est pas du meilleur fabricant, mais tous ceux qui l'entendent entrent en danse, bon gré, mal gré. Il suffit d'ailleurs de le posséder pour en savoir jouer à merveille. « Vous me charmez, dit Peters. J'ai souvent rêvé que je jouais du violon, quoique je n'ai jamais touché un de ces instruments. Mon rêve s'explique. » Il essaya en effet quelques mélodies et fut enchanté d'être si habile. « Miracle ! » s'écria-t-il. « Je savais jouer du violon sans m'en douter. Que cela me sera une agréable compagnie. » Il voulut remercier le vieillard, mais il avait disparu. Le bon garçon continua sa route, 1000 fois plus joyeux qu'il ne l'était avant sa rencontre. Au village voisin, il entendit un bruit de trompette. Il apprit des habitants que le pays était en réjouissance et qu'on y célébrait la fête de l'arc. Les plus habiles archers arrivaient de 10 lieues à la ronde pour se disputer un prix considérable offert par l'empereur. Quand Peters sut cela, il résolut de s'établir dans l'endroit et de mettre à l'épreuve l'arbalète qu'on lui avait donnée. Le lendemain, les joutes commencèrent, et dès la première heure, tous les tireurs médiocres furent écartés. Peters se présenta un peu tard, alors que 2 concurrents seulement se disputaient la victoire. On lui permit pourtant d'entrer dans la lice, en sa qualité d'étranger. Les 3 adversaires tirèrent d'abord à la cible, et atteignirent tous 3 le point central avec une si grande justesse qu'on ne put décider quelle flèche était la mieux arrivée. Le trait de chaque archer brisait le précédent et se plantait dans le trou qu'il venait de dégager. On lâcha quelques pigeons pour les tirer au vol. Pas un ne fut manqué, et l'on remarqua que les flèches des trois archers frappaient toutes au cœur. Cependant, les oiseaux s'étaient élevés à une si grande hauteur qu'au moment où les flèches partaient, ils étaient à peu près imperceptibles. Un des archers lança alors une flèche dans les airs, et prenant son temps, dès qu'il la vit retomber, il la fendit au vol avec une autre flèche. La foule le crut vainqueur, mais ses compagnons ne furent pas moins adroits que lui. La victoire semblait devoir rester indécise quand Peters pria la fille du bailli, qui présidait au tournoi, de lui prêter une de ses bagues. La jeune fille avait les doigts si mignons que la bague était bien petite. L'extrémité aiguë des traits des archers pouvait seule la traverser. Peters lança la bague à toute volée, et pendant qu'elle fuyait devant lui, il l'atteignit d'un trait plus rapide qu'il enfila et tomba avec elle à une distance énorme. Un des archers se déclara vaincu. L'autre demanda qu'il lui fût permis d'essayer trois fois d'exécuter ce prodige d'adresse. Peters s'y accorda, et au troisième coup, l'archer parvint à toucher la bague. Peters se prit alors à rêver un instant. Puis il alla se placer bien au-delà de la cible, et avec son doigt, il fit un petit trou dans la terre. Il revint vers l'assemblée, en comptant très exactement 200 pas. Il se retourna, banda son arc et tira en l'air. La flèche siffla, décrivit une immense courbe et vint s'enfoncer dans le trou qu'il avait fait et dont personne ne pouvait de si loin distinguer l'ouverture. Le fait parut si incroyable qu'on le pria de recommencer. Il y consentit, et la foule enthousiaste le porta en triomphe, pendant que son adversaire lui-même le proclamait le plus habile archer du monde. La fille du bailli lui remit une bourse contenant 1000 écus d'or et lui fit en rougissant un compliment fort bien tourné, mais qu'il ne sut pas comprendre. Les archers, qu'il régala de son mieux, lui apprirent qu'il avait le droit de choisir une femme parmi les plus belles filles du pays. Peter s'en fut enchanté, et sans désemparer, il demanda en mariage la fille du bailli, qu'on lui accorda avec beaucoup de politesse. Pendant qu'on préparait les noces, l'heureux paysan se promenait dans le village, remerciant Dieu et le petit vieillard de sa nouvelle fortune. En passant par une rue écartée, il entendit des gens qui pleuraient à chaudes larmes. C'était une famille malheureuse, ruinée par un usurier, et dont on allait vendre les meubles. Il y avait là 3 ou 4 petits-enfants qui criaient la faim et la misère. Peter sentit son cœur se fendre et déclara qu'il paierait le créancier. Comme il avait sur lui le montant du prix qu'il avait gagné, il le donna à l'usurier qui se déclara satisfait. Le cœur content et l'esprit léger, Peter se rendit chez sa fiancée et lui conta cette aventure. Elle l'approuva fort, mais le bailli qui était présent jeta les hauts cris et l'appela prodigue et dissipateur. 1000 écus d'or, disait-il, vous donnez 1000 écus d'or comme une nèfle. Quel homme êtes-vous donc? Croyez-vous que 1000 écus se trouvent dans le pas d'un cheval? Ne songez plus, je vous prie, à épouser ma fille. Et pourquoi cela? Qu'est-ce que les 1000 écus peuvent faire à mon mariage? Vous le demandez, dit le beau-père exaspéré, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Mais songez bien que vous n'aurez ma fille que quand vous aurez retrouvé la somme. Qu'à cela ne tienne, répondit Peters. Il valait mieux me le dire que le gronder. Je vais vous chercher l'argent. » Il partit aussitôt, sans douter du succès de sa démarche, et se rendant auprès de l'usurier, il le pria de lui rendre les 1000 écus qui lui faisaient faute. Celui-ci l'écouta sans le comprendre. Il lui fit répéter sa demande, et persuadé qu'il était fou, il le mit à la porte de sa maison en le gourmant quelque peu. Peters, consterné de sa déconvenue, alla trouver ses amis les archers pour leur demander conseil. Ils éclatèrent de rire comme un sang de mouche et se moquèrent de lui. « Et quoi ? » lui dirent-ils. « Ne saviez-vous pas que cet usurier est le plus grand coquin du monde ? Il a ruiné 20 familles. Il est dur comme un rocher, et il fait plus de mal dans le pays qu'une bande de voleurs. »« Vous m'étonnez, » dit Peters. « S'il est si méchant, comment ne le renvoyez-vous pas ? Et le moyen, s'il vous plaît ? La loi est impuissante contre lui. car il sait ce qu'elle peut lui permettre et il ne va jamais au-delà. Mais celui qui nous en débarrasserait serait le bienfaiteur de la contrée. Que ne le disiez-vous plus tôt ? Je vois maintenant à qui j'ai affaire, et j'agirai en conséquence. » Peters retourna chez l'usurier, qui refusa d'abord de le recevoir. Il insista, prétendant qu'il avait à lui proposer une excellente affaire, et fut enfin introduit chez son homme, qui lui demanda d'un ton bourru : « Que voulez-vous encore ? Parlez vite, car j'ai peu de temps à vous donner. Ne venez-vous pas me demander quelque chose ?»« Vous me faites injure, » dit Peters. « Je viens vous apporter de l'argent à gagner. Vous savez que je suis dans le besoin puisque je vous ai donné tout ce que j'avais. Que pensez-vous de ce violon dont je voudrais me défaire ?»« Un violon, » dit l'usurier, « vous me dérangez pour un violon ?»« Il y a violon et violon, » répondit Peters. « Celui-ci est d'un prix inestimable. En êtes-vous sûr ? Est-ce un Amati, un Stradivarius ?» C'est mieux que tout cela. Je ne vous demande qu'une minute. Permettez-moi de vous le faire entendre. » C'est une grande complaisance de ma part, dit l'usurier. Mais je suis dans mes bons jours. J'écouterai volontiers votre petite musique. Peters sourit, prit le violon et en tira quelques accords. Dès les premières notes, l'usurier bondit sur son fauteuil et fit un pas de basque. La mesure s'accéléra. Il prit la troisième pause du menuet, continua par une gambade et se livra à une courante désordonnée. Les pirouettes succédaient aux entrechats, les jetés battus se mêlaient aux cabrioles, et jamais on n'avait vu une pareille agilité. D'abord, il essaya de bien prendre la chose, mais au bout d'un moment, la fatigue l'emporta. « Doucement, s'écria-t-il, doucement, c'est trop de gaieté, c'est trop de folie. Amusons-nous, mais n'abusons pas. Encore un avant deux, mais que ce soit le dernier. Encore un flic-flac, mais qu'il n'ait pas de suite. « Cher monsieur, en voilà assez. Il est merveilleux, votre violon, je vous l'achète. Mettez-le dans sa boîte, je vous en prie. Je suis brisé, je suis rompu. Arrêtez cette musique infernale. Au secours, à l'aide !»« Me lâchez-vous 1000 écus ?» dit Peters en s'interrompant. « 1000 écus, miséricorde ! Un violon qui n'est pas signé. Je vous en offre 12 francs. »« Encore un petit air, » dit le paysan. « Vous ne l'avez pas assez apprécié. » L'usurier sauta sur la table, d'une enjambée il fut sur la cheminée, puis sur le bord de la fenêtre. Après ces trois grands écarts, il détailla des petits pas pressés et battit des 6-8 avec une telle vélocité qu'il finit par tomber sur le derrière. Mais il fut repoussé comme par un ressort et continua de s'agiter d'une manière insensée. « Ai-je dit 12 francs » criait-il. « C'est 12 écus que j'ai voulu dire. 12 écus, c'est-à-dire 12 louis. 12 louis, ce n'est pas assez. Voulez-vous 1200 francs ? Maudit violon ! Faut-il donc que je me ruine ? Que vous faut-il au nom du ciel ? 1000 écus d'or, pas un sou de moins. Je vous les donne, dit l'usurier, à bout de force. Mais taisez-vous immédiatement. » « Je suis charmé, dit Peters en essuyant son archet, que nous ayons fini par nous entendre. » L'usurier compta les 1000 écus d'or en pleurant. Le paysan s'en empara gaiement et sortit d'un pas allègre, pendant que l'homme d'affaires enfouissait le violon au fond de sa caisse. Il se rendit chez le bailli pour lui montrer la somme qu'il avait recouvrée. Le mariage fut de nouveau arrêté, et les deux fiancés se réjouissaient de leur bonheur quand on entendit du bruit à la porte. C'était le grand juge qui arrivait à pas comptés, précédé de ses massiers et suivi de ses gendarmes. Il fit amitié avec le bailli et le prévint qu'il venait arrêter un paysan nommé Peters, accusé d'avoir volé 1000 écus d'or à un banquier du pays. « Qui peut dire cela ? » dit Peters en s'avançant. « C'est moi, » dit l'usurier, en montrant sa figure pâle au-dessus de l'épaule d'un gendarme. « Mais ces 1000 écus, vous me les avez donnés. »« Mensonge ! Je vous le demande, monsieur le juge, est-il croyable qu'on donne 1000 écus au premier venu ?»« Assurément non, » dit le juge. « Mais, dit Peters, c'est le prix d'un violon que je vous ai vendu ?»« Un violon ne se vend pas 1000 écus, dit le juge. Mon ami, votre affaire est mauvaise, et je suis dans la triste obligation de vous faire pendre. »« Plaisantez-vous, dit le paysan. Je ne suis aucunement de cet avis. Parlez donc, monsieur le bailli. Si vous avez volé les 1000 écus, répondit celui-ci, il faut bien que justice soit faite. » »« Vous le voyez, dit le juge, tout est contre vous. L'argent est encore sur cette table. Le flagrant délit est constaté. Je n'aime pas les causes qui traînent en longueur. Qu'on prépare la potence. Hélas, dit Peters en tombant à genoux, est-ce une sentence définitive ? Ne puis-je en appeler, monsieur le juge ? songez bien que je meurs innocent.
Cela vous servira dans l'autre monde, dit le magistrat.
N'ai-je donc aucun espoir de grâce?
Aucun, mon ami. J'aime mieux vous dire nettement les choses. Quand on sait à quoi s'en tenir, on se résigne, et l'on s'en va tranquillement. Il vous reste toutefois une faculté.
Laquelle? Soupira Peters d'un ton dolent.
Vous pouvez demander, avant de mourir, à satisfaire une de vos fantaisies. Or, la vie et la liberté, nous n'avons rien à vous refuser.
Eh bien, dit le paysan, en respirant plus à l'aise, laissez-moi jouer du violon pour la dernière fois.
Non, s'écria l'usurier, pour l'amour de Dieu, n'y consentez pas.
J'ai serré ce violon maudit dans mon coffre-fort, et nous serions perdus si vous le lui rendiez.
Je ne vous comprends pas, dit le juge. Qu'est-ce qu'un violon peut avoir de dangereux?
En tout cas, nous ne pouvons nous refuser au dernier vœu d'un condamné. La loi est formelle.
Le violon fut apporté et remis à Peters, qui en fit résonner les cordes.
Attachez-moi, cria l'usurier, si vous avez quelque pitié dans l'âme.
Mais on ne l'écoutait pas, car l'archet du musicien courait sur les cordes résonnantes. Un air de danse vif, entraînant, semé de trilles et d'arpèges, fit tressaillir les assistants. Les gendarmes se firent face et partirent d'un pas de bourrée. Les petits clercs sautèrent comme des cabris. Les geôliers se balançaient en cadence, en imitant avec leurs clés le bruit des castagnettes. Le juge, après avoir essayé de conserver sa gravité, retroussa sa soutane et fit un chassé-croisé. Le curé, chargé d'assister le patient, ne resta pas en arrière. Le bourreau lui-même exécutait un pas seul, en se servant de sa corde en guise de guirlande. Tout le monde était en mouvement, et jamais on ne vit de pendaison si gaie. Cela marcha assez bien pendant les 5 premières minutes. À la 10e, on n'en pouvait plus. Au quart d'heure, tout le monde jetait les hauts cris, et le juge promettait la vie sauve aux paysans s'ils consentaient à se taire.
« Marché conclu, dit celui-ci, mais j'en accepte le coquin qui m'a trahi. Je veux m'enfermer avec lui et le faire danser jusqu'à ce qu'il périsse. »«
Grâce, répondit l'usurier, je vous rends les 1000 écus qui sont bien à vous, et je vous ferai des excuses. »
Ainsi, dit le juge, vous avez menti et calomnié ce pauvre homme. À la bonne heure, nous ne partirons pas sans pendre quelqu'un.
L'usurier fut saisi et puni selon les règles de cette justice expéditive. La noce de Peters eut lieu sans encombre et le juge y fut invité. On assure même que le paysan y joua du violon, mais pendant la soirée seulement.
Thank you.